Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Jésus dit encore. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Amen. Une autre lecture, s'il vous plaît, dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 29, s'il vous plaît. Le docteur de la loi, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Dans l'évangile de Matthieu encore, au chapitre 9, après des expériences que le Seigneur Jésus avait faites, Matthieu chapitre 9, il y a une grande, grande réalité pour nous aujourd'hui et ce matin. Et je voudrais que nous lisions ces trois versets avec beaucoup de ferveur spirituelle. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit aux disciples de Sainte-Agne, je suis sérieux, « La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La foule était languissante et abattue, et le regard de Jésus a été un regard de compassion, frères et sœurs. Dieu sait, mes frères et sœurs, ce matin, comment nous sommes venus. Le Seigneur, qui dans sa tendresse nous connaît parfaitement, sait où nous en sommes, tous les progrès que par sa grâce nous avons pu faire, toutes les frustrations qu'il y a encore dans notre cœur, parce que je pense que si vous aimez Dieu, vous êtes parfois tous, on est frustrés de ne pas avoir suffisamment changé. Vous souffrez pas parfois de dire, mais j'ai pas suffisamment changé. Est-ce que ça vous arrive pas des fois de dire, mais quand même, des fois c'est pas bon parce qu'on se culpabilise trop, on se traumatise trop. Mais tous quand même, on est capable de dire, on aurait quand même pu faire certains progrès. Et ces progrès, moi je vais vous dire, Dieu va nous aider à les faire. Si notre cœur est ouvert, si notre esprit est contrit, si notre esprit reçoit ce que nous allons partager ce matin et tout le reste que vous recevrez plus tard par votre culte personnel, moi je crois que Dieu peut faire par nous et en nous son œuvre. Il a décidé, avant que le monde n'existe, il a décidé, pour faire son œuvre, d'utiliser des hommes et des femmes dans le cadre de l'Église. Dieu a mis à sa disposition sa grâce, à notre disposition. Paul un jour a dit, Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Est-ce que vous savez que nous avons suffisamment de grâce pour faire les progrès qu'il faut faire, pour servir Dieu comme il veut que nous le fassions, en commençant peut-être à comprendre ou à réentendre certaines vérités qui vont nous amener plus loin. Jésus, lorsqu'il a vu la foule, il a été ému de compassion. Tous les jours, que nous le voulions ou non, nous voyons une foule de besoins. Nous voyons des gens qui sont de plus en plus détruits. Je sais pas vous, mais il me semble que moi, il y a 25 ans en arrière, même les gens du monde, qui connaissaient pas la grâce de Dieu, étaient en paix, certains. Je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire? Il me semble qu'il y a 25 ans en arrière, on voyait des gens qui n'étaient pas chrétiens, mais ils avaient une certaine paix. Une certaine quiétude, quand même, malgré le fait qu'ils connaissent pas Dieu, cette paix humaine, ses vertus terrestres, morales. Donc beaucoup de gens ont quand même, même s'ils sont pas chrétiens, une certaine, certaines vertus. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, il n'y a rien du tout. Dans le cœur de tous ceux qui sont sans Dieu, la foule, elle est languissante et complètement abattue. Ça a toujours existé. Si ça a existé du temps du Seigneur Jésus, c'est que ça a toujours existé. Dès que l'homme a péché, il s'est trouvé errant et vagabond et misérable et languissant et abattu. Mais est-ce que ce matin, nous pourrions pas, pendant le temps de cette prédication, laisser le Saint-Esprit nous amener à réaliser qu'il a besoin de chacun de nous? Mais vraiment besoin. Nous ne nous rendons pas compte, un jour le Seigneur a eu besoin d'un anon. Il en avait besoin. Dieu a besoin de votre vie. Dieu a besoin de votre corps, de votre âme. Dieu a besoin de votre ministère, de votre service. Dieu en a besoin. Et il ne faudrait pas, comme M. Olé le faisait ressortir dans ses annonces, que les bienfaits dans lesquels nous sommes, parce que quand même, comparativement à d'autres pays, moi je peux vous dire que nous sommes quand même pas mal lotis, vous voyez, et que nous pouvons que utiliser cette liberté pour être une source de bénédiction. Voyant la foule, il a d'abord vu la foule. Et parce qu'il a vu avec le regard qu'on devrait nous aussi avoir, il a été ému. Et parce qu'il a vu le besoin avec des yeux de tendresse et de compassion, et parce qu'il était ému, eh bien, il a été poussé à agir. Et nous avons tous de bons sentiments. Je suis persuadé que pendant le cadre de cette prédication, nous allons tous dire en terminant, c'est vrai ce qu'a dit le pasteur. C'est vrai que je ne m'investis pas suffisamment et que nos sentiments vont peut-être être touchés et dire c'est vrai, il va faire quelque chose. Mais vous savez, les bons sentiments, ça suffit pas. Les bons sentiments, c'est bien les sentiments. Mais ça ne suffit pas. Il y a une différence entre le sentimentalisme et la compassion. C'est que le premier reste passif. On peut avoir des sentiments et ne pas être actif. Tandis que la compassion, ça pousse toujours à faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le sentimentalisme, c'est bien. On voit un besoin, on a même un petit peu de peine, on dit c'est vrai, c'est pas bien. Oh, ça, c'est grave. Oh, il me faudrait. Mais le sentimentalisme, ça reste presque toujours passif. Tandis que la compassion, et c'est ce que je voudrais partager avec vous pendant les quelques minutes que nous avons, je voudrais que nous puissions comprendre que Dieu nous garde d'être des chrétiens sentimentaux. C'est bien que nous ayons des sentiments pour tout ce qui est sentimental. Mais pour tout ce qui est de l'ordre de l'œuvre de Dieu, de la vie spirituelle, il nous faut réclamer de la compassion. Et si nous n'en avons pas, eh bien, ne soyons pas bornés, réclamons-la. Est-ce que vous croyez que les compassions de Dieu peuvent nous être renouvelées? Est-ce que vous croyez que quelqu'un, quel que soit l'état, on n'a pas jugé l'état de quelqu'un, quel que soit son état, qui, pas sentimentalement, mais spirituellement, pourrait dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai pas de compassion, je vois les besoins, je vois bien ces gens languissants et abattus, mais je ressemble de très près à ce prêtre, à ce lévite, et moi je suis pas là ce matin pour cataloguer les gens, surtout pas. Mais peut-être que, moi je voudrais me faire l'avocat, justement. De ce prêtre et de ce lévite qui, quand ils ont vu le blessé, ils sont passés outre. Vous savez, on va pas les juger. Combien de fois, nous aussi, nous sommes passés outre devant des besoins? Dites-moi la vérité. Est-ce que vous avez jamais vu, vous dites, oh, j'ai pas le temps. Alors que, franchement, des fois, on aurait pu prendre 5 minutes pour parler à un clochard qui lui donnait une pièce. Est-ce que c'est pas vrai? Ça aurait été le Seigneur Jésus qui était là. Est-ce qu'on n'aurait pas pris 5 minutes pour parler avec lui? C'est vrai qu'on peut pas prendre 5 minutes. S'il faut donner 1 euro, parfois quand je traverse la ville à tous les gens qui font la manche, je peux vous dire qu'il va falloir faire quelque chose. Hein. Mes frères et sœurs, on a souvent passé outre. Et ce matin, on n'est pas venu pour s'autoflageller. Ce matin, on est venu pour que Dieu nous bénisse, pour que Dieu nous parle, et pour que Dieu peut-être mette le doigt sur ce qui a besoin d'être transformé du sentiment en véritable émotion spirituelle. L'histoire du Samaritain est là. Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu, elle vient du cœur de Dieu, c'est Jésus qui l'a raconté, il a voulu qu'elle soit dans les Écritures pour que nous puissions nous aussi entendre la réponse par rapport au prochain. Qui est mon prochain? Ce docteur de la loi qui essayait de se la jouer en essayant de déprouver Jésus. Enfin, tant mieux pour lui, il a permis qu'on ait une des plus belles paraboles de l'histoire. Qui est mon prochain? Eh bien mon prochain, c'est je rencontre quelqu'un, il est dans le besoin, j'ai peut-être pas d'argent, j'ai peut-être pas d'or, j'ai peut-être pas de capacité, mais je peux peut-être avec un mot, une parole gentille l'encourager. Ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ce qu'on ne peut pas faire, ça, c'est pas grave. Ce qu'on n'a pas, c'est pas important. Mais ce qu'on a, ce qu'on peut faire, frères et sœurs. L'histoire du fils prodigue n'est-elle pas là, mes frères et sœurs, pour nous rappeler comment le Seigneur veut que nous nous y prenions, pour accueillir les âmes qui ont foiré volontairement péché, parce que le fils qui est parti, c'était... Bien sûr, c'est une erreur de jugement qu'il a fait. Il a pensé que... Et les gens qui rétrogradent, ils font tous des erreurs. Mais quand même, qu'elles soient volontaires ou qu'elles soient inconscientes, est-ce à nous de porter un regard dur sur les gens qui ont rétrogradé? Avouez que, moi, en tous les cas, moi, souvent, je l'ai fait. Et je me suis pas senti en paix de l'avoir fait, bien sûr. Vous avez vu cette histoire? Comme il était encore loin, le père le vit et fut ému de compassion. Voilà. Voilà ce que Jésus voulait que l'histoire sache. Que... Comment il regarde les gens? Les gens qui sont mal, les gens qui vont pas bien, les gens qui reviennent, les gens qui reviendront. Ils sont peut-être encore loin, pendant qu'il était encore loin. Ça c'est clair que l'autre fils, il risquait pas de le voir venir. Mais Dieu, lui, il nous voit de loin, frères et sœurs. Vous aimez pas ce verset? Il faut le relire avec moi. Hein? Verset 20. Comme il était encore loin, son père le vit. Rien que ça. Rien que ça, mes frères et sœurs, ça nous donne la température du cœur du Seigneur. Il était encore loin. Et il le cherchait de son regard. Il le cherchait parce que nous, on les voit pas, les gens qui sont encore loin, parce qu'on est peut-être comme le fils aîné. Mais moi, je vous dis que Dieu les voit. Et qui sait s'ils vont pas revenir? Et qui sait si Dieu veut pas que nous nous préparions à accueillir? Dimanche dernier, il y a une rétrograde qui est revenue. Quand elle est rentrée à l'église, de suite, j'ai vu qu'elle regardait si mon regard était un regard de... Vous savez, les gens, ils observent. Elle a de suite vu mon regard, si j'allais être sévère ou si j'allais être compatissant. Et je lui ai dit, ma sœur, j'ai envie de vous serrer dans mes bras. Mais je ne peux pas le faire, les gens ne comprendraient pas. Ah, merci, monsieur Gomes, merci. Ça fait du bien, oui, j'ai péché, j'ai perdu. Qu'est-ce que j'allais lui dire? Encore une chute? Non, mais vous avouez que c'est dur d'être pasteur. Je suis sérieux. Parce que les gens, ils vous scannerisent, hein, voyez. Et parfois, ils le font parce qu'ils ont tellement été blessés qu'ils ont peur de tout le monde. Vous savez, quand on a été blessé, quand on a été écorché vif, c'est facile, c'est difficile parfois. En tous les cas, ce texte nous montre comment Dieu regarde ceux qui reviennent. Ceux qui reviennent dans la repentance. Et moi, je crois que si nous supplions Dieu, si l'Église est ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une maison de prière, parce que l'Église, c'est quand même la maison de Dieu. Cette semaine, nous avions un pasteur qui rappelait que Paul a dit à Timothée que tu saches comment il te faut te conduire dans la maison de Dieu. L'Église, c'est pas que local. Il y a quand même, l'Église, ce sont chacun d'entre nous sommes une pierre vivante. Mais moi, je crois aussi que le local a son importance. Que c'est un endroit où nous réunissons. Je trouve que c'est bien. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez pas venir 9 rue Saint-Guilhem? Moi, je trouve que c'est un endroit où nous aimons nous retrouver. Et je pense que c'est quelque chose de sérieux. Son père l'a vu. Son père l'a vu parce que je crois, mes frères et sœurs, que dans cette ville de Toulouse, il y a beaucoup de fils prodigues. Et si Dieu se préparait, écoutez bien,
Je pense pas à Toulouse-Saint-Agne, mais au minime, à Toulouse-Ouest, à Albi et ailleurs. Et si Dieu se préparait à les ramener, avons-nous suffisamment de compassion pour les accueillir? Quand je vois des fois dans une semaine, quand on s'occupe de 3 ou 4 personnes difficiles, que 4 personnes qui nous ont pris 2 heures d'entretien, je vous assure, et je me dis 4 personnes difficiles, abattues, malheureuses, il faut toute son attention pour les écouter, pour... Je me dis, Seigneur, mais si tu nous en envoyais 100, est-ce que Dieu pourrait envoyer 100 rétrogrades dans le mois de juillet, pendant nos vacances? Est-ce que Dieu a toujours de la compassion? Est-ce que nous fléchissons devant cette compassion? Parce que peut-être on y fait plus gaffe. Parce que justement, on est peut-être, il faut être honnête, avec beaucoup d'amour, moi je me mets plus dans la place du fils aîné qu'autre chose. Mais peut-être que nous n'avons pas le regard du fils aîné. C'était sûr qu'heureusement que le Dieu n'a pas le même regard sur les fils prodigues que le fils aîné, franchement. Il l'a vu de loin. Et ce matin, hier soir, en préparant ce texte, je me disais, mais Seigneur, pourquoi j'ai ça à cœur? Est-ce qu'il y a des gens qui sont loin, que tu vas ramener parce que l'église va être prête à les ramener? Mais est-ce que notre maison sera vraiment cette maison de prière et de supplication? Parce que c'est un combat spirituel, c'est pas une question de sentiment et de gentillesse. Il faut que nous nous aimions, on est frères. Ben, c'est clair, ça on s'aime, ça c'est réglé ça. Mais c'est un combat spirituel. Pourquoi le Père va courir? Il courut se jeter à son cou. Courut. Vous allez me dire, c'est à vous à m'expliquer, bon. Mes frères, une minute de plus, une minute de moins, quelle était l'importance? Vous êtes d'accord avec moi? Après tout, on n'est pas une minute près, quelqu'un qui a rétrogradé. Mais est-ce que ça indique pas que le Seigneur ne supporte pas qu'on soit éloigné de lui? Et que dès que de la part d'un homme, il y a un retour, lui, il fait le premier pas, il fait tous les pas, il fait à fin de compte. Quand je vous disais l'autre jour que quand Moïse est monté sur la montagne, Dieu était déjà descendu. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Mais Dieu, il est descendu, vous le savez, en Jésus-Christ. Et il veut, par le biais de la puissance du Saint-Esprit, nous amener à faire des expériences que notre vie matérielle ne remplacera jamais. On peut avoir tout ce qu'on veut, béni soit Dieu pour nos maisons, pour tous nos meubles et tout ce que Dieu nous a donné. Mes frères et sœurs, vous êtes d'accord pour dire que jamais le bien matériel ne pourra remplacer des expériences surnaturelles, spirituelles, qu'on pourra faire avec le Seigneur, et que nous soyons prudents. Que nous soyons sérieux si dans cette histoire, le Seigneur nous montre que le Père qui représente Dieu a couru vers son Fils. Ça veut quand même bien dire que Dieu ne veut pas que nous soyons éloignés de lui et qu'il n'y a pas une minute à perdre. Et c'est vrai que le Père n'a pas été vers le Fils prodigue. Moi, c'est la première fois que je dis cette histoire, je dis mais pourquoi il n'a pas été le chercher? Il a été chercher la brebis perdue. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu va en chercher certains et pourquoi il en attend d'autres? Il y a une grande différence entre une brebis qui se perd et quelqu'un fait une brebis qui s'est perdue, et quelqu'un qui volontairement se perd. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je fais la différence. Vraiment. D'ailleurs, liée. Si le Seigneur a donné ces 2 paraboles, c'est qu'elle existe. Et Dieu attend. Mais ça veut dire aussi que nous devons nous préparer, non pas avec un esprit dur, mais à accueillir des gens, même s'ils ont chuté, même si volontairement ils ont péché, même s'ils ont dilapidé leur temps. Parce qu'en tous les cas, si le fils, le petit, avait dilapidé son argent, le fils aîné, moi je crois qu'il a dilapidé beaucoup de choses aussi. Beaucoup de choses, sa vocation en tous les cas. Le Seigneur Jésus l'a dit, que nous ne voyons pas comme lui voit. Jésus l'a dit, le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent de leur cœur et que je ne les guérisse. Le Seigneur a dit, fais au peuple d'Israël, vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Et si ce que nous voyons ne nous pousse pas à avoir un minimum de compassion, ne les provoquez pas les besoins, soyons disponibles. Parce que je crois que tous les jours, Dieu peut mettre sur notre chemin quelqu'un. Ça peut être au travail, ça peut être dans la rue. Bien sûr qu'on ne va pas passer 3 heures avec le prochain clochard, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je pense que si nous demandons à Dieu de la compassion, il nous la donnera. Il nous la donnera, mes frères et sœurs. Il nous la donnera. On peut être avec le Père et ne pas voir. Le frère aîné ne voyait pas. Est-ce qu'il attendait son frère? Est-ce qu'il s'en fichait? Je ne sais rien. Au fait, est-ce que vous attendez vos frères? Vous en connaissez des gens qui ont péché, qui ont chuté, qui sont partis de l'église? Qui ont eu tort? Surtout eux. Est-ce que vous en connaissez des gens qui ont eu tort? Oui, ils ont eu tort. Ils ont eu tort. Vous savez, si on est là ce matin fidèle, moi je vais vous dire, c'est un effet de la grâce de Dieu. Il ne faut pas commencer à se comparer avec des gens qui ne viennent pas. Mais moi je crois de tout mon cœur qu'on peut dire, Seigneur, donne-moi de la compassion, que je sois prêt, que je sois pris lorsque le demi-mort, pour leur reprendre la parole du Samaritain, va se présenter. Il va se présenter, le gars, il courait pas dans tous les sens, il n'y avait pas une pancarte, je cherche des demi-morts. Il s'est présenté, sur le chemin, ça s'est présenté. Et si nous avons de la compassion, ou nous aurons le choix, si nous avons de la compassion, nous répondrons à des besoins. Un peu d'huile, un peu de vin. C'est-à-dire la vie de l'esprit, la joie de Dieu, ce que nous pouvons apporter aux autres. Et Dieu mettra sur notre chemin des blessés. Vous croyez qu'il y en a des blessés dans la ville de Toulouse, hein? Mais il n'y a que ça. C'est un cimetière, notre pays, mes frères et sœurs. C'est biblique ce que je dis. Et je crois que Dieu est toujours le même. Capable de permettre que des moments comme celui-ci soient des moments où quand même nous nous recalions, peut-être par rapport à la Sainte-Seine, par rapport à notre communion avec Dieu, mais peut-être dans un moment comme celui-ci par rapport à notre service dans l'Église, et à dire, mais c'est clair, je pense à quoi? Je pense à mes congés, je pense à mettre tant d'argent là-dedans, je vous le reproche pas, si vous pouvez le faire, faites-le. Peut-être que vous en avez été privé pendant des années, et qu'aujourd'hui vous pouvez vous faire plaisir. Moi, je ne me permettrai pas de juger quelqu'un qui se fait plaisir et qui part en vacances et qui se paye un voyage. Après tous, je pense qu'on a le droit de se faire plaisir. Mais derrière tout ce qui est humain, je m'investis dans ce que Jésus a dit, tu aimeras ton prochain. Parce que nous ne pouvons pas dire, mais il n'y a pas de blessés. Il n'y a pas de problème, mes frères et sœurs. Les gens sont morts. Et si le Père va courir vers le Fils, c'est que Dieu ne supporte pas que les gens partent à l'enfer. Vous savez que tous les ans, dans le monde, il meurt 51 millions de personnes. Il y a autant de personnes avortées, entre guillemets. Ça veut dire qu'à peu près toutes les semaines, il meurt 1 million de personnes sur Terre. Vous pouvez regarder, n'importe quel quid, vous regardez. 1 million de personnes. Ça veut dire qu'il y a plus de 100 personnes qui meurent par minute. Où vont ces gens? Combien vont en enfer? Combien en ce moment sont en train de découvrir l'enfer? Vous savez que c'est vrai. Est-ce que j'exagère? En ce moment même, à Toulouse, dans une clinique, une maison de retraite, il y a peut-être un pépé, une mémé, qui est en train de mourir, qui meurt. Et peut-être qu'elle va en enfer. Alors vous allez me dire, mais attendez, chacun est responsable.
Oui, c'est vrai.
Mais moi, je crois que si dans une église, nous réclamons ce que nous devons réclamer, nous réclamons ce que Dieu veut nous donner, et Dieu le fera, sa grâce est là, vous le savez que la grâce, elle est là. Mais pourquoi j'utiliserai la grâce que pour être béni matériellement? Pourquoi je n'utiliserai la grâce de Dieu que pour être chargé d'un bon point, spirituellement parlant? Pourquoi je n'utiliserai pas la grâce de Dieu pour que sa compassion m'envahisse? Il fut ému de compassion, le regard du Père, le regard de Jésus, et il a dit prier. Il y a plusieurs façons de gérer le problème de cette foule. Il y a déjà le devoir de prier. Il n'a pas dit, la foule était languissante, il n'a pas dit, mais c'est comme ça. Il a dit, prier. Le maître de la moisson. Parce que la prière génère des ouvriers. La prière fait mouvoir le bras de Dieu. Et nous sommes, sans nous en rendre compte, vraiment transformés. Peut-être que plusieurs jeunes vont être appelés au ministère. Vous croyez qu'il n'y a pas besoin de ministère dans la ville de Toulouse? Vous croyez pas qu'il n'y a pas besoin d'église qui prospère spirituellement parlant? C'est la volonté de Dieu. Et Dieu a été obligé de dire, mais le cœur est devenu insensible. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Il est possible d'être avec le Père et de ne pas voir les besoins, comme le fils aîné. On va pas le juger puisqu'on est à sa place. Pour beaucoup d'entre nous, en tous les cas, moi j'ai mis ça. Mais on va pas s'autoplageller, je le répète. Mais on peut peut-être ce matin dire, Seigneur, je veux faire des progrès. Je ne veux pas avoir une vie sentimentale au niveau spirituel. Le sentiment pour les sentiments, tout ce qui est psychique pour le psychisme. Mais ce qui est spirituel, Seigneur, il faut que ça jaillisse. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et je crois, moi, que Dieu voit nos cœurs ce matin. Et que nous sommes tous d'accord pour dire, mais nous manquons de compassion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir témoigner qu'il a trop de compassion en lui? S'il y a quelqu'un, je vous laisse le temps. Personne ne sera. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est celui qui va venir quand même, je vais lui expliquer. Mes frères et sœurs, nous avons tous besoin. Et moi, je crois que nous nous aimons suffisamment. Est-ce que nous nous aimons? Est-ce que vous vous aimez entre vous, frères et sœurs? On est une famille, c'est vrai qu'on est béni. Moi, je me sens béni dans cette église. Mais je ne veux pas rester avec cette bénédiction humaine. Moi, je crois que Dieu a un plan et des œuvres, il les a préparées à l'avance. Ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois encore jusqu'à la moisson? La moisson est là. Dieu va venir, Dieu va descendre, un jour le temps de la grâce va s'achever. Et s'il y a la compassion, la miséricorde, la tendresse de Dieu, vous savez, tous, vous savez que Dieu, dans sa souveraineté absolue, va descendre et va moissonner. Dieu se veut que nous regardions les champs missionnaires. On en a parlé, on en reparlera encore. Moi, je bénis Dieu pour ce qui se fait. Moi, je bénis Dieu. J'ai discuté avec plusieurs missionnaires à la convention. Je les ai invités au restaurant. J'ai écouté, voilà, et bon, on va discuter. Quand on voit ce que certains vivent, mes frères et sœurs, que Dieu soit béni. On ne peut pas s'imaginer ce que certains frères vivent. Et nous sommes là, Dieu nous a bénis. Le fils aîné, il était béni. Le père va lui dire, écoute, tout ce que j'ai est à toi. Donc on voit bien que Dieu veut bénir matériellement. Mais cette bénédiction matérielle, qu'est-ce que j'en fais?
ou l'aisance dans laquelle je vis, la liberté dans laquelle je vis, ça ne peut pas me permettre de faire quelque chose. Dieu mettra des besoins. Ne les provoquez pas. Moi, je crois que les besoins se présenteront. Il faut faire attention, parce qu'on a vite fait de mettre la pression sur les gens. Et moi, je n'ai pas envie de mettre la pression. J'ai bien au contraire envie de l'enlever. Cette pression justement que le diable nous met et qui nous oppresse. Moi, je crois que la vie avec Dieu, c'est une vie de délivrance. Et une vie de victoire, une vie de guérison. Dieu veut que nous regardions avec ses yeux. Et vous pouvez dire, Seigneur, que mes yeux s'ouvrent. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, leurs yeux étaient fermés, ils n'avaient rien compris. Et nous, parfois, nous ne comprenons pas. Et Dieu, dans sa bonté, va revenir et nous dire, mais rempli de compassion, monsieur Gaillard nous a lu ce texte, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce qu'on l'a entendu ce matin? Oui, c'est des sentiments de compassion, des sentiments d'humilité, pour que nous regardions comme Dieu veut que nous regardions, que nous ne râlions pas si un fils prodigue revient, eh bien, qu'il a dilapidé ses talents, eh bien, qu'il revienne. Et prenez-le dans vos bras. Et embrassez-le. Et s'il commence à se justifier, il dit, écoute, que Dieu te bénisse. Hier, il y a un monsieur qui m'a téléphoné, un monsieur que je ne connais pas. Mais il avait appris que je savais qu'il m'avait insulté. Et il m'a téléphoné. Il me dit, mais est-ce que vous pouvez me pardonner? Et je lui ai dit, mais vous êtes pardonné. Vous pouvez revenir au Seigneur. Vous croyez que les gens qui se sont moqués de nous, qui nous ont salis, peuvent revenir à l'église? C'est la maison de Dieu. Ce n'est pas quand même la maison de monsieur Gault. C'est la maison de Dieu, la bonne maison du Seigneur. Et Dieu veut que nous soyons comme le Père. Comme votre Père céleste est parfait, vous aussi, soyez parfait. Oh, c'est impossible. Mais est-ce que j'aspire à faire quelques progrès? Est-ce que j'aspire à dire, mes Seigneurs, je t'en supplie, que peut-être vous n'avez pas parlé à votre voisin depuis des années, mais est-ce que vous croyez que Dieu peut susciter un entretien? Moi, je le crois. Il faut pas que ça soit orchestré humainement, tout ça. Il faut pas mettre... Parce que moi, j'ai tellement dit, il faut évangéliser. Non, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut avoir de la compassion. Et c'est écrit. Et avec la vie de l'Esprit et une compassion renouvelée, eh bien, le Seigneur va me mettre devant des besoins. Je vais être sensible. Il y aura un besoin ici, il y aura un besoin là. Peut-être dans l'église, peut-être quelqu'un à qui je vais écrire, peut-être quelqu'un à qui je vais téléphoner. Pas pour lui parler pendant des heures. Peut-être pour l'écouter. Parce qu'il a besoin de parler. Dieu a un regard miséricordieux et il voit de loin, frères et sœurs. Moi, je veux croire que Dieu voit de loin ceux qui sont en train de décider de revenir et qui vont revenir et qu'on va les aimer et qu'on va se réjouir et qu'on va tuer le Vaugras. Regardez, on va faire des michouis. Mes frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu soupire à manifester son amour. Regardez ce texte. Tiens, on va le lire. Dans Osée, lisez-le avec moi. Osée, chapitre 11. Pardon. Osée, chapitre 11. Verset 8. Il y a de ces questions dans le prophète Osée qui nous montrent vraiment que Dieu est bon. Osée 11, verset 8. Que ferai-je de toi, Ephraïm? Dois-je te livrer, Israël? Regardez le cœur de Dieu qui parle. Vous y êtes? Alors, Osée 11, verset 8. Que ferai-je de toi, Ephraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïn? Regardez bien comment Dieu parle. Mon cœur s'agite. Au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues, je n'agirai pas selon mon ardente colère. On voit que Dieu repousse son jugement. Vous croyez pas qu'il est bon, le Seigneur? Vous croyez pas que Dieu a souvent repoussé certaines choses? Vous croyez pas que Dieu est bon? D'ailleurs, il le dit qu'il tarde. Mais il ne tarde pas dans l'accomplissement, mais il attend afin que d'autres soient sauvés. Et les gens ne seront pas sauvés avec de l'évangélisation intellectuelle. Les gens seront sauvés avec des cœurs embrasés, avec des cœurs remplis de compassion. Les gens, ils s'en fichent de notre doctrine. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui rentrent à l'église, mais ils s'en fichent de la doctrine. Ils n'ont pas besoin d'entendre une prédication sur la théologie de l'amour, la théologie de la compassion. Ils veulent qu'on les aime, les gens. Qu'est-ce que vous préférez? Que vous vous aimiez les uns les autres ou avoir trois études bibliques sur la compassion, l'amour, la tendresse? Les gens, ils s'en fichent, les gens. Les gens, ils sont languissants, ils sont malades, ils sont moitié morts, quand ils sont pas entièrement morts, quand ils sont pas peut-être à quelques minutes de l'enfer. Et moi, quand je vois le Père courir, ça me donne l'idée que Dieu veut que nous perdions pas du temps, parce que nous allons quand même rendre compte à Dieu un jour. Vous le savez qu'on va rendre compte à Dieu. Bien sûr que le fait de ne peut-être pas avoir de compassion, ça n'annule pas notre salut, ça je le sais, que si on accepte toujours Jésus-Christ comme Seigneur, et que toute notre vie on reste avec l'amour de Dieu dans notre cœur, bien sûr qu'on entretient notre salut, mais c'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pas de râler comme le fils aîné, c'est peut-être de, il aurait dû peut-être être ensemble, avec le Père, tu le vois, il revient. Moi, je soupire après que les gens reviennent et que nous soyons prêts, parce que moi, je crois humblement qu'on a besoin de se préparer. Vraiment. C'est biblique. Prépare-toi à rencontrer Dieu, c'est pas que pour l'éternité, ça. Je pense que c'est également se préparer dans l'Église à rencontrer le Seigneur. Qu'est-ce qu'on a besoin? Que Dieu nous visite, frères et sœurs. Et si nous soupirons après sa compassion, on l'a vu dans Osée. Ses compassions, il est ému. Dieu est ému. Il y va repousser. Encore il va repousser. Nous, on dirait, mais juge-les. Et Dieu dit, non, je te ferai pas ça. J'attendrai. Et pourquoi nous attendons? Pourquoi nous ne courons pas spirituellement? Pourquoi nous ne faisons pas tout simplement certaines choses? Mais c'est vrai qu'il faut faire, il faut basculer du sentiment à la compassion, qui est une vertu spirituelle. C'est vraiment important, mes frères et sœurs. Il se jeta dans ses bras, oh, il devait encore ressentir le cochon. Non, je suis sérieux. Il l'a pris dans ses bras, vous savez, les gens qui reviendront, ils sentiront mauvais, peut-être. Je parle pas physiquement. C'est vrai que c'est désagréable. Des fois, ça vous est jamais arrivé d'avoir quelqu'un à côté qui sent, un clochard qui sent l'urine, le tabac, l'alcool, pue. Et si Dieu nous en envoie, le clochard, ce serait bien qu'un jour il connaisse l'éternité lui aussi. Est-ce qu'on est prêt à avoir cinq clochards qui puent? Parce que ça dégage de l'odeur, cinq clochards. Et vous savez que c'est vrai. Et vous savez que c'est pénible en plus. Hein? Quand ils rôtent et que... Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'on est prêt à accueillir? Est-ce que vous êtes prêt à rester avec moi après les réunions pour discuter avec eux? Peut-être pour leur payer un casse-croûte, discuter peut-être dans une place de l'école du dimanche. Est-ce qu'on est prêt? Parce que c'est ça, moi je ne vois pas comment c'est. Regardez les évangiles, et je crois que la compassion, si on dit Seigneur, remplis-moi de compassion, attention, c'est dangereux. Ça va provoquer des trucs. Mais je crois que c'est encore plus dangereux de rien faire. Vous ne croyez pas, frère et sœur? Je crois que c'est encore plus dangereux, plus grave, de rien faire du tout, et de vivre en roue libre. Et je ne vais pas vous blâmer, mes frères. Je suis peut-être pire que vous. Mais je crois, mes frères et sœurs, que nous avons la grâce, comme disait monsieur Olé, de vivre dans un pays libre, d'avoir une assemblée, d'avoir un pasteur. Je ne dis pas ça pour moi, mais il y a des églises, ils n'ont pas de pasteur. À la convention, chaque fois dans telle église, il n'y a pas de pasteur, dans telle église, il n'y a pas de pasteur, dans telle église, il n'y a pas de pasteur. Et vous, vous en avez une flopée en plus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Des yeux qui voient, des bras qui s'ouvrent. On le voit, cet homme, hein? Les bras miséricordieux qui le prennent, là. Ce jeune homme, son fils qui est là, des daillons, pieds nus, qui sent mauvais, il le prend dans ses bras. Vous ne vous souvenez pas du jour où le Seigneur vous a pris dans ses bras? Vous en souvenez? Il peut le faire ce matin encore, vous étreindre de sa bonté. Parce que peut-être aussi, on se sent comme le fils aîné, comme le fils prodigue, je ne sais pas. Mais moi, je crois que Dieu peut nous étreindre. Il n'a pas dit, va te laver, tu sens, puis après on verra. On réglera. On va voir ce que tu as fait. Non. Je lisais ce matin le psaume 136, ne le lisais pas. À main forte et à bras étendus, sa miséricorde durera toujours. C'est pas bien ça? À main forte et à bras étendus, sa miséricorde durera toujours. Venez, dira Isaïe, et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. On voit bien que Dieu soupire après à nous rencontrer, que Dieu veut nous rencontrer. Il dit, mais venez, venez, il dit pas plaider, il dit plaidons. On voit bien que Dieu s'acharne, excusez-moi le terme, mais à nous rencontrer. Il veut courir vers nous. Dieu est plus intéressé que nous réveille, mon frère et sœur. Dieu est plus intéressé que nous à exaucer nos prières, confirme ta parole, des prodiges et miracles. Mais Dieu n'attend que ça. Mais peut-être qu'on n'est pas prêt. Peut-être qu'on n'est pas prêt. Hein? On n'est pas prêt. Paul disait qu'il avait dans le cœur un chagrin continuel à cause des perdus. Peut-être il dira, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours, le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, c'est clair. Réjouissez-vous. Intérieurement, spirituellement, notre âme se réjouit parce qu'on est prêt. Mais par rapport aux besoins, c'est impossible de séparer notre position en Christ, de nous réjouir en Christ, et c'est impossible de nous détacher des besoins de nos frères et sœurs, des besoins des rétrogrades. Il y a un besoin. Et ça se fera pas avec des études bibliques, ça se fera avec des frères et des sœurs, et moi le premier, qui on va dire à Jésus, Seigneur, donne-moi ta compassion, donne-moi ta compassion. J'en ai pas, eh bien, Seigneur, donne-moi. Et je crois que si nous prions, si nous persévérons, eh bien, Dieu nous en donnera. Moi, je le crois vraiment. Nous avons tant reçu du Seigneur, mes frères et sœurs. Vous avez reçu du Seigneur. Est-ce que vous aurez à manger à midi? Est-ce que vous aurez à manger? Vous aurez à manger? Est-ce que vous pourrez acheter un gâteau? Est-ce que vous pourrez déboucher une bonne bouteille de vin? Pour la plupart, je pense que oui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ne nous contentons pas de sa bénédiction matérielle. Recevons, ayons sa vision. La même vision. Quelle sorte de fils je suis? Moi? Et toi, mon frère? quelle sorte de fils suis-je aujourd'hui? Est-ce que je suis un fils qui gâche tout? Qui gâche tout? Parce que j'ai pas de compassion? Est-ce que je suis un fils perdu? Est-ce que j'ai tout dilapidé? Enfin, vous savez, c'est de pas avoir d'objectif spirituel, de pas avoir de vision spirituelle. Est-ce que c'est pas aussi grave que de tout dilapider? J'aimerais terminer avec une histoire que j'ai lue hier. On va la lire, s'il vous plaît. Une histoire qui s'est passée il y a quelques semaines. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 2. C'est une drôle d'histoire. Quelle histoire? Exode, chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Pourquoi? Pour ceux qui lisent ce texte pour la première fois, c'est que Pharaon avait décrété que tous les enfants devaient être égorgés ou jetés dans le Nil. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va !» lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Vous connaissez certainement qui était cet enfant. Vous avez vu, moi hier j'ai flashé parce que je préparais ma prédication dans ma tête. Verset 6. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle a eu pitié. Et je me dis, mais une païenne. Elle ne savait pas cette femme, la fille de Pharaon, qu'elle allait par sa pitié être utilisé par Dieu pour sauver une nation. Que vous le vouliez ou non, vous pouvez me dire ce que vous voudrez. De toute façon, Dieu avait son plan. Mais en tous les cas, il a utilisé une païenne. Pourquoi? Parce qu'elle a eu, elle avait de la compassion. Elle aurait pu le laisser truc. Elle aurait pu appeler les gardes. Il y a un hébreu là qui flotte. Mais c'est vrai. Vous savez que c'est vrai. Elle a eu pitié. Elle en a eu pitié. Et vous avez vu ce qu'elle a fait sans le savoir. Sans le savoir, mes frères et sœurs, sans le savoir, elle a sauvé l'homme, bien sûr, après Jésus, bien sûr, Jésus c'est pas un homme, c'est Dieu. Elle a sauvé l'homme qui est devenu le plus grand de l'histoire. Pour moi, Moïse, c'est pas quand même, c'est pas partie des derniers, oui. Elle a eu pitié. Vous voyez, mes frères et sœurs, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que Dieu, des besoins se présenteront. Quand on a pitié des gens, les besoins ils vont se présenter comme ce bébé, je sais pas, peut-être que vous allez devoir adopter un enfant dans quelques semaines. Ne dites pas, ça va faire un gosse de plus. Si ça se présente, peut-être faites-le. Grâce à sa présence dans votre maison, non seulement Dieu vous bénira, mais peut-être qu'il ira dans l'éternité parce qu'il baignera dans la grâce. Je sais pas. Mais moi je crois que Dieu... Excusez-moi, je suis ému parce que je sais que Dieu veut faire quelque chose dans l'église. Et nos cœurs sont endurcis. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Dieu veut faire quelque chose dans notre assemblée. Dans cette église, mais dans les autres aussi. Mieux encore, j'espère. Mais je sais que Dieu veut faire quelque chose. Et nous devons le supplier. Vous savez, la compassion, ça vient pas avec 3 paroles de « Oh Seigneur, c'est vrai, il a raison, Monsieur Gault. » Non, 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 non. Il faut, frères et sœurs, qu'on réalise. On demande à Jésus, mais Seigneur, donne-moi tes yeux. Je veux pas avoir les yeux du fils aîné, qui pense qu'à lui, qui en méprécie même pas ce qu'il a. Je veux pas avoir les yeux de ce lévite, de ce prêtre. Je veux, Seigneur, je veux que tu me remplisses. Parce que si tu me remplis, ça coulera tout seul. Et quand il y aura un besoin, je le verrai. Elle vit l'enfant. Elle eut pitié. Quand je disais ça ce matin, je dis, mais Seigneur, pour conclure, il n'y a pas mieux. Pour conclure cette prédication, elle eut pitié de lui. Elle a sauvé le peuple de Dieu. Moi, le premier. Et il ne faut surtout pas, je le répète, dramatiser, devenir légaliste. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Et demain, il y a peut-être un panier qui va flotter devant votre maison. Eh bien, ayez pitié. Ça sera un mot. Une parole. Mais moi, je crois que si nous sommes émus de compassion, je le pense vraiment. Si nous n'avons pas, réclamons-la. En plus, que Dieu a été merveilleux. Vraiment un Père, bon. Ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Une jeune fille qui s'amusait, elle a sauvé une nation.
Et Dieu l'a pas envoyé n'importe où, bien sûr qu'il était dans la rivière. Il aurait pu le faire. Mais en fait, de toute façon, il savait où il fallait, il savait où l'amener, le Seigneur. Et vous savez, les paniers, il saura les faire naviguer vers Sainte-Agne. Vous comprenez ce que je veux dire? Les paniers, le Seigneur. Vous croyez qu'il peut les faire couler dans la rue de Sainte-Agne? Vous croyez que Dieu peut souffler sur un panier? Et l'amener auprès des filles, pas des filles de Pharaon, mais des héritiers du trône.